Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Avis d'embouteillage dans les tribunaux allemands du droit d'asile. Depuis 2016, l'Office des réfugiés a statué sur plus d'1,4 million de demandes. Mais la plupart des déboutés qui n'ont donc pas obtenu le statut font appel. C'est donc l'engorgement. L'an dernier, 300 000 dossiers étaient encore en suspens. Et certains demandeurs d'asile attendent une décision depuis plus de 2 ans. C'est le reportage à Berlin de Déborah Berlioz.
Costume impeccable, chaussures cirées et cheveux bien coiffés, Samir, un jeune Afghan de 21 ans, s'est mis sur son 31 pour son audition. Il faut dire que c'est son avenir qui se joue aujourd'hui. Sa demande d'asile a été refusée en février 2017, mais il a saisi le tribunal pour contester cette décision et il passe enfin devant le juge ce matin. L'angoisse se lit sur son visage.
J'ai été persécuté pour des raisons politiques en Afghanistan. Depuis mon arrivée ici, je me suis converti au christianisme. Donc c'est un risque supplémentaire pour moi. J'espère vraiment que le juge tranchera en ma faveur, car ma vie est réellement menacée dans mon pays.
Fils d'un haut responsable de la police, il a été menacé par les talibans pendant toute son enfance. Mais l'Office des réfugiés a estimé qu'il pouvait s'abriter dans une autre région de l'Afghanistan. Quant à sa conversion, elle n'est arrivée qu'après sa demande d'asile. C'est désormais au juge Strobel de décider.
Le problème concernant les persécutions par les talibans est qu'on ne peut pas se reposer sur les déclarations du plaignant. Nous devons donc juger si ce qu'il dit est crédible ou non. Pour sa conversion au christianisme, c'est encore plus compliqué car il ne s'agit pas de juger des faits mais une conviction. Donc l'audition risque de durer.
Pendant plus de 4 heures, le juge va donc interroger Samir sur sa vie en Afghanistan, sa fuite et sa nouvelle religion. Entre 10 et 20 auditions de ce genre se déroulent chaque jour au tribunal administratif de Berlin. Il y a les plaignants comme Samir, dont la demande d'asile a été déboutée, et ceux qui contestent leur expulsion. Mais il y a aussi des réfugiés qui n'ont obtenu qu'une protection subsidiaire. Ils veulent un meilleur statut qui leur permettrait de rester plus longtemps et de faire venir leur famille plus facilement. Sur les 21 000 procédures en cours au tribunal de Berlin, plus de 12 000 concernent le droit d'asile. Ce chiffre s'est multiplié par 10 depuis 2014. Il faut dire qu'en 3 ans, l'Office des réfugiés a statué sur plus d'un million de demandes d'asile. Cette année, plus de la moitié de ces décisions ont abouti à la saisine des tribunaux. Pour Stéphane Grosskurt, juge administratif depuis 25 ans, cet afflux de plaintes est parfaitement logique.
Chaque réfugié qui fait appel contre le rejet de sa demande d'asile a le droit de rester en Allemagne et reçoit un titre de séjour. Donc l'attrait d'une plainte est très fort, même si elle n'a aucune chance d'aboutir.
L'avocate de Samir porte un autre regard sur ses recours. Selon Tessa Goebel-Tarini, il n'y aurait pas autant de plaintes si l'Office des réfugiés avait fait correctement son travail.
Au plus fort de la crise, quand des milliers de réfugiés sont arrivés, l'Office ne disposait pas d'assez de traducteurs. Et donc, beaucoup d'auditions de demandes d'asile n'ont pas été faites correctement. L'Office a engagé des gens qui n'avaient aucune formation de traducteur. C'était juste des gens qui parlaient persan et allemand. Ça ne pouvait pas marcher.
Pour faire face à cette surcharge de travail, le tribunal administratif de Berlin a engagé des juges et ouvert 5 nouvelles chambres. Malgré tout, il faut bien compter 13 mois en moyenne pour traiter un recours d'asile. Et certains plaignants attendent même une décision depuis plus de 2 ans. Mais pas question pour Stéphane Grosskurt de bâcler le travail.
Si on prend une mauvaise décision sur une taxe de 50 euros par exemple, quelqu'un va payer injustement cette amende, mais cela ne va pas changer le cours de sa vie. Les décisions sur l'asile sont dans certains cas une question de survie, donc il faut vraiment y réfléchir. Les juges ont une grande responsabilité, ce n'est pas toujours facile, notamment pour les jeunes juges que nous avons dû embaucher récemment.
La montagne de procédures d'asile en cours commence tout de même à diminuer, mais très doucement. Pendant ce temps, des milliers de réfugiés restent coincés dans les limbes de l'administration. Les conséquences sont désastreuses pour les clients de Tessa Goebel-Tarini.
La plupart sont dans une situation précaire et ne peuvent pas planifier leur vie. On ne se marie pas et on ne fait pas d'enfants tant qu'on ne sait pas si on va pouvoir rester ici. C'est aussi compliqué de commencer une formation. Et c'est particulièrement dur pour les gens traumatisés.
Dans la majorité des cas, les juges administratifs ne reviennent pas sur la décision de l'Office des réfugiés. En 2017, 22% des plaignants ont obtenu gain de cause. Malheureusement, Samir ne rentrera pas dans ces statistiques. Deux semaines après son audition, la décision du juge Trobel est tombée et elle n'est pas en faveur de Samir. Le jeune homme peut encore faire appel, mais c'est difficile. L'année dernière, seuls 1400 réfugiés ont fait appel de la décision du tribunal administratif et presque aucun n'a gagné.
Et on apprend que l'Allemagne et les Pays-Bas vont débloquer 10 millions d'euros au Niger pour qu'ils mettent sur pied des forces spéciales chargées de contrôler ses frontières contre l'immigration illégale. Selon les statistiques européennes, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger pour gagner la Libye et l'Europe. Pour notre chronique avec Courrier International, on retrouve aujourd'hui Paul Grisot. Bonjour Paul.
Bonjour.
Votre magazine se demande, à la suite de l'élection du leader d'extrême droite au Brésil, Jair Bolsonaro, si nous n'avons pas basculé dans un monde de brutes. Et on peut dire que l'Europe n'est pas en reste sur ce sujet avec quelques exemples édifiants.
Oui, en Europe, certains dirigeants font partie du club des hommes forts, comme le surnomme le quotidien britannique The Times. Ce sont des dirigeants sans scrupules qui ont le vent en poupe sur tous les continents et qui n'hésitent pas à agir de façon musclée, souvent au mépris des règles du droit international. En Hongrie, on connaît par exemple le président Viktor Orban et son combat pour une démocratie illibérale, dont il s'est fait le défenseur. Il affiche ainsi son mépris pour une société ouverte et se targue de défendre en premier lieu les intérêts nationaux, quitte à aller au conflit avec l'Union européenne. D'après The Times, Viktor Orban aurait même inspiré le régime chinois, parce qu'à Pékin, on étudie de près le concept d'illibéralisme et que Xi Jinping, le président chinois, aimerait édicter ses propres règles et ses propres valeurs qui sont opposées à celles des démocraties libérales.
Et puis il y a l'Italie avec Matteo Salvini qui lui aussi se la joue gros bras.
Oui, le leader de la Ligue qui est devenu ministre de l'Intérieur en juin s'est forgé une personnalité d'homme simple, qui parle vrai, un chef volontariste qui n'a pas froid aux yeux et ne recule devant aucune intimidation. Il a même hérité d'un surnom, Il Capitano, le capitaine. Alors le site BuzzFeed rappelle qu'il s'en prend tous les jours sur les réseaux sociaux aux migrants, mais pas seulement. Il attaque aussi les ONG, les personnalités politiques étrangères, les footballeurs noirs, l'Union européenne et les journalistes, bien sûr, qui le critiquent. Une ligne qui n'est pas sans rappeler celle de Donald Trump aux États-Unis. Alors Orban et Salvini, les deux hommes forts en Europe, font donc partie d'un mouvement plus vaste de dirigeants tout autour de la planète qui n'hésitent pas à piétiner les règles du droit international pour servir leurs propres intérêts. Et pour le Times, c'est un signal inquiétant. Jamais, nous explique le quotidien britannique, jamais les règles du droit international n'ont été à ce point bafouées depuis les années 1930, qui était l'ère des dictateurs.
Et puis toujours dans Courrier International, un tout autre sujet qui concerne plusieurs pays européens. En Espagne, le gouvernement veut en finir avec la prescription des crimes et délits sexuels commis sur des mineurs.
Oui, actuellement ces crimes et délits sont prescrits au bout de 5 à 10 ans, et le délai commence à courir à partir du moment où la victime atteint l'âge de 18 ans. Le délit est donc prescrit au maximum quand la victime atteint l'âge de 33 ans. Le problème, nous expliquait le quotidien El País, c'est que la majorité des victimes mettent des années pour assimiler les agressions et pour pouvoir bien sûr les raconter. Et souvent, les coupables ne sont donc pas inculpés. Les débats sur la prescription n'existent pas seulement en Espagne. L'imprescriptibilité existe déjà au Royaume-Uni et la France vient d'approuver une loi qui prolonge la prescription de 20 à 30 ans. Pourtant, certains juristes contestent la future réforme. Ils pensent que c'est très compliqué de prouver des faits qui peuvent remonter jusqu'à 50 ans et que cette loi pourrait remettre en cause le principe même de prescription, ce qui pourrait ouvrir la porte à une sorte, disent-ils, de condamnation occulte à la perpétuité.
Et puis un dernier sujet qu'on peut toujours lire sur le site internet de Courrier International. Pour lutter contre le réchauffement climatique, une start-up suisse propose tout simplement de faire disparaître le dioxyde de carbone.
Oui, elle s'appelle Climeworks et est installée à Lausanne. L'idée de cette jeune entreprise, c'est de tout simplement retirer le CO2 de l'atmosphère et le stocker dans le sol. Alors le quotidien suisse Le Temps nous rappelle que le timing est parfait puisque le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, vient une nouvelle fois de tirer la sonnette d'alarme et recommande de réduire les émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique. Alors depuis un an, Climeworks teste un procédé qui permet d'aspirer le CO2 avant de le stocker dans le sol en Islande. L'idée, c'est de mélanger le CO2 à de l'eau et de l'expédier à une profondeur de 700 mètres. Et dans le sol, le gaz réagit au contact du basalte, qui est une roche volcanique très présente en Islande, et le gaz se transforme en pierre blanche calcaire qui est sans danger. Le journal suisse nous explique que le plus gros défi de cette jeune entreprise est de faire baisser le coût de ce type de stockage pour qu'il devienne vraiment attractif. Car pour l'instant, il se situe entre 600 et 800 dollars la tonne, mais les fondateurs de Climeworks estiment qu'ils peuvent arriver à descendre sous les 100 dollars si l'entreprise parvient à se développer. Ils sont bien partis pour y arriver puisqu'ils ont réussi à lever cet été plus de 26 millions d'euros. Mais manque de chance, le jour où l'entreprise annonçait l'ouverture des préinscriptions, c'était début octobre, son site internet est malheureusement tombé en panne. Cette fois donc c'était un mauvais timing, mais cette jeune entreprise semble tout de même promise un bel avenir.
Merci Paul Grisot, tous ces sujets sont à retrouver dans la version papier et numérique de Courrier International. À bientôt.
À bientôt.
À Prague, on fêtait cette semaine le centenaire de la Tchécoslovaquie, née en 1918, aujourd'hui scindée en deux États, tchèque et slovaque. Pour l'occasion, une exposition intitulée « La mémoire de la nation » s'est installée dans un drôle d'endroit, un bunker creusé dans une des collines de Prague, et qui était autrefois surplombé d'une immense statue de Staline. Alexis Rosenzweig l'a visité pour nous.
À l'intérieur du vaste bunker, on découvre une partie des restes de ce Staline géant détruit à l'explosif. À côté de ces débris, plusieurs installations multimédia rappellent aux visiteurs les heures sombres de ce petit pays d'Europe centrale, envahi en 1938 par les nazis, 20 ans seulement après son indépendance. Vidéomapping et environnement sonore rappelle notamment la bataille d'Angleterre et la précieuse participation des pilotes tchécoslovaques qui furent ensuite maltraités par le régime communiste après le coup de Prague de 1948. Des rails lumineux et des bruits de chemin de fer évoquent aussi la déportation des juifs du pays vers les camps de la mort. Sur des écrans sont projetés certains des plus poignants témoignages choisis parmi les milliers déjà enregistrés par l'association Mémoire de la Nation. Des personnes âgées racontent face caméra leur expérience des interrogatoires de la police politique, des procès manipulés, de la déportation ou encore de l'écrasement du printemps de Prague de 1968. Le but de l'association, après cette exposition, est de créer à Prague un musée des régimes totalitaires sur l'histoire locale des régimes nazis et communistes qui ont imposé leurs lois ici. L'initiative fait sens. Mais la création d'une telle institution est un sujet très politique qui suscite de nombreux débats. Il existe déjà à Prague un institut pour l'étude des régimes totalitaires, accusé d'être instrumentalisé et souvent critiqué pour son utilisation à charge des archives. Ce fut notamment le cas pour l'affaire Milan Kundera, quand des historiens ont affirmé avoir retrouvé des traces de la collaboration du célèbre écrivain avec la police communiste tchécoslovaque avant son exil en France.
De l'or et du platine utilisés dans les emplants dentaires. Voilà le trésor qu'un crématoire près de Zurich en Suisse a décidé de récupérer dans les cendres des morts incinérés. Une pratique qui fait polémique mais qui bénéficie d'un flou juridique. Les explications de Katia Michel.
C'est le crématorium de Nordheim, dans le canton de Zurich, qui s'est récemment équipé d'un filtre spécial permettant de récupérer les métaux précieux après l'incinération. De l'or, du platine, du platinium ou du titane présent dans les implants dentaires ou les prothèses. Si la pratique divise d'un point de vue éthique, légalement rien ne s'y oppose. Après l'incinération, ces métaux n'appartiennent à personne. Le crématorium de Nordheim n'est d'ailleurs pas le premier à s'être lancé dans cette pratique. À Soleure, une ville de 16 000 habitants près de Bâle, les métaux récupérés dans les fours sont revendus à des orfèvres depuis 2013. Le crématorium s'est même doté d'un équipement permettant d'automatiser le tri. Et ce recyclage rapporte une somme coquette, 35 000 francs suisses par an en moyenne, soit 28 000 euros. Selon une étude allemande, un mort emporte avec lui 2,2 grammes d'or. En Suisse, 53 000 crémations sont réalisées chaque année. C'est donc un marché de près de 3,5 millions de francs, 2,8 millions d'euros, que peuvent potentiellement se partager les professionnels du secteur de l'incinération. Mais la pratique diffère selon les cantons. À Fribourg, on ne recycle que les prothèses en titane, le crématorium n'étant pas équipé pour récupérer les métaux. À Genève, rien n'est retiré des corps, sauf les pacemakers, prélevés avant l'incinération par des médecins. Les boîtiers nettoyés sont ensuite vite réutilisés lors d'opérations nécessitant une aide temporaire. Mais les hôpitaux précisent qu'en aucun cas, ils ne sont réimplantés de manière définitive. En France aussi, certains crématoriums se sont lancés dans le recyclage de métaux après l'incinération. Les services funéraires de la ville de Paris, qui gèrent entre autres le cimetière du Père Lachaise, ont récolté l'année dernière l'équivalent de 2000 kilos de métaux. Mais pas question d'en faire du profit. Les 80 000 euros de la revente ont permis de soutenir des associations et des thèses universitaires. Quant aux métaux recyclés, ils peuvent se retrouver dans l'industrie aéronautique, automobile ou encore dans le secteur de l'armement.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Et pour notre chronique musique, on retrouve Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Vous nous parlez aujourd'hui de retrouvailles avec une artiste singulière.
6 ans de silence discographique n'ont pas altéré le mystère qui nimbe les chansons de Soap and Skin. Le nom de scène que s'est choisi l'Autrichienne Anya Plajg. 28 ans et un parcours musical entamé très jeune, avec l'apprentissage du piano, puis la découverte du violon et de la musique électronique à l'adolescence, et un premier album en 2009 qui avait impressionné la critique par sa noirceur et le caractère très singulier d'arrangement de clavier. Ceux-ci sont toujours au cœur des nouvelles chansons de Soap and Skin, mais son tout récent From Gas to Solid se distingue surtout par la densité des orchestrations et la force des mélodies qu'elles conduisent de concert avec une voix presque fantomatique.
Gas to Solid de Soap and Skin, de la matière musicale dans Accent d'Europe aujourd'hui. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Stephen Elsley. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission. Tout de suite sur RFI, un nouveau point sur l'actualité. L'épopée.